c'est Rollbox 62.
Bonsoir à tous et
bonsoir à toutes.
Et salut.
À toutes et à tous, bien sûr, le Pas-de-Calais.
Bien sûr, la Rollbox 62. Absolument.
Voilà.
Alors, on va parler dans le Pas-de-Calais, mes amis.
Bah ouais.
Il n'y aura pas les Fatal Pika. On ne joue pas dans le Pas-de-Calais, les Fatal Pika.
Je sais pas, puis on s'en fout.
Non, j'ai des destinations plus valeureuses. J'espère qu'il n'y a pas parmi nos auditeurs des gens du Pas-de-Calais ou des Picards. On va aller aux États-Unis, hein, comme il se doit. Seattle en 2024. Boston, 72-76. Chicago, 53. Oui. Et Memphis, en 2014. Donc, 53 à 2024, il y a une sacrée amplitude. Hein.
Sacrée amplitude.
Je crois qu'il y a la plus grande amplitude dans une émission Roll Mops. Et on va aller aussi, bien sûr, il y a toujours un petit Australien dans la bande. Hein, voilà. On va aller à Brisbane en 2024 également. On va aller en Angleterre. À Newcastle en 94 et puis on va aller en France, pas mal. Ah, pardon, à Londres en 66 aussi. En France, on va aller à Nice en 2019 et en 2023. On va aller à Limoges en 2024 également et on va aller à Rennes en 2019. Donc voilà, une émission placée sous le signe de la nouveauté.
Mais exactement, et je vous propose d'ailleurs de commencer par une nouveauté. Et
oh,
tu
oui.
l'as dit juste avant, on va directement à Brisbane.
Ah.
Car nous allons retrouver notre ami Gentle Ben. Alors cette fois, il n'est pas avec les Sensitive Side comme à la Roll Mops numéro 4, mais avec les Shimmering Hands. Effectivement, désormais, Gentle Ben a donc changé de line-up et en profite pour nous sortir un nouvel album.
Sur Beast Records, non ?
Mais exactement,
oh, incroyable.
Exactement, qui s'appelle Brut et que franchement là pour le moment l'ensemble des interviews qu'on a pu ou des chroniques certains qualifient ce disque de chef-d'œuvre.
Ah.
Carrément.
Ah
donc
oui.
Ah oui carrément. Effectivement, on peut dire que là la barre a été plutôt montée assez haut de la part de Gentle Ben. Donc cette fois il est toujours accompagné hein, par un trio Tony Jacka à la basse, Dan Dabler comme guitariste et puis Jindu Pedro Rory à la batterie. Voilà. Alors donc le titre que je vais vous proposer, eh bien en fait c'est le premier extrait, c'est le premier single de cet album Brut, donc sorti le 4 mai je crois. Le titre s'appelle Big Sam, qui veut dire éclair en néerlandais, et en fait c'est un hommage au musicien américain Dan Startan qui s'est suicidé en 2021. Il s'avère que l'ensemble du groupe était fan de ce musicien, donc ils ont décidé de faire un morceau en son hommage. Donc voilà, alors évidemment, on retrouve toujours chez notre ami Gentle Ben, eh bien en fait le côté brut, dangereux, brisé, électrisant de sa musique. Et je vous invite du coup à le découvrir de ce pas.
Ça promet.
Allons-y.
Eh ben carrément. Alors on y va. Here we go. Central nervous system.
Très bien, très bien, très bien.
Et bien voilà les amis, donc c'était Gentleman on the Shimmering Hands et enchaîné avec une exclue, mes petits gars.
Oui,
de Limoges. De Limoges,
le, puisque... le grand écart Brisbane-Limoges, là.
Oh,
aussi.
C'est assez proche, en fait. Hein.
Ouais.
C'est quand on ferme les yeux, on n'est pas loin. Et musicalement, il y avait quand même une certaine similitude. C'était les Cold Cold Blood.
Très classe.
Et ouais, sont pas chez Beast Records, Cold Cold Blood.
Alors, il y a eu un disque chez Beast Records.
C'est les Lost Communists, c'est ça?
Alors, voilà, exactement.
Ah,
puisque,
oui.
C'est le, alors, c'est le projet de I Am A Band, alias Fabien Bréard, qui était le bassiste des Lost Communists. Et également, avec lui, il y a Alfred Dixon, le batteur des Lost Communists. Ils sont accompagnés de Nico Carlier à la basse et puis de l'excellent Rémi Delmas à la guitare. Il a des petits riffs à la Fogerty, je trouve, ce fameux Rémi. Donc effectivement, les Cold Cold Blood, un 33 tours chez Beast Records, un EP 6 titres, un 45 tours, et puis là donc on vient d'entendre la démo, un titre tiré de leur démo qui préfigure le prochain album qui sortira en 2025, parce qu'effectivement chez Roll Mops on a le bras aussi long que ceux de Red Richards des 4 Fantastiques, et il s'avère que j'ai pu te décoter ça. Non, en réalité je les ai vus en concert ce week-end à Bourges, c'était vraiment excellent, puisqu'il s'avère que nous sommes également amis. Alors voilà, vous avez pu bien voir, on a pu entendre que Raining Sound, donc Cartwright est omniprésent, mais pas que, parce qu'on peut retrouver également Mark Lanegan, Wilco, genre de choses, The Band, Crazy Horse aussi.
L'influence Americana, tout ça. Ouais.
Exactement, voilà, donc en gros, on va du blues, du garage, de l'alt country, swamp rock. Enfin voilà, en tout cas, ce titre I Wanna Be est, je trouve, très prometteur pour le prochain album des Cold Cold Blood. Souvenez-vous, ils avaient joué en novembre 2022 avec les Bucks and Blade et les Strong Commons à l'Astrolabe.
Exactement.
Quel plateau.
Eh ben exactement.
Mais
voilà,
effectivement,
voilà.
Tu vois presque le Gentleman, il est tellement bien produit. Enfin, je trouve qu'il
est
tellement puissant.
Les cœurs sont magnifiques.
Il y a presque, malgré tout, tu vois, le Cold Cold Blood, il souffrait presque de passer après ce morceau qui est vraiment très impressionnant.
Ouais. Et puis encore australien en diable. Hein,
oui, alors je vous rappelle que le Cold Cold Blood, ce n'est qu'une démo. Je pour une démo, c'est quand même
plutôt
pas mal chialé. D'ailleurs, en parlant de démo, je crois que mon cher Lolo, tu vas nous en proposer une de 1972, si je me trompe pas.
Bah oui. Mais tu spoiles là, tu spoiles.
Non, je fais un lien.
Oui, un lien. Oui, je vais vous parler d'un groupe et de son leader. Hein. Il s'agit des Modern Lovers, c'est de Jonathan Richman. On n'a jamais passé ça encore. Hein.
Alors. Il y a une des chansons que tu vas passer qu'on a déjà passée, mais en reprise. C'était une reprise des New Bomb Turks.
Tu as raison. Donc, Modern Lovers, c'est un groupe américain, bien sûr, ils sont originaires de Boston, hein, Massachusetts, créé évidemment par Jonathan Richman en 1970. Il est accompagné par Jerry Harrison, donc futur Talking Heads, par David Robinson, futur Cars, et par Ernie Brooks, futur musicien pour Elliot Murphy, par exemple. Hein. Ce groupe n'existera en fait que 4 ans, c'est trop bizarre, parce que en 4 ans, entre 70 et 74, ils ne font qu'un seul album. Et de plus, c'est un album qui sortira de manière posthume.
Exactement,
en 76.
Ouais, c'est fou, ouais.
Donc, ce fameux groupe se réunit à nouveau entre 76 et 88, mais avec, on va le voir, quelque chose de complètement différent. Donc, leur style musical a été qualifié de proto-punk. Alors, bon, proto-punk.
Sur le premier album.
Oui, pas les autres. Hein,
pas les autres, non.
Non.
Ce qui est un peu surprenant d'ailleurs quand on découvre les,
les
Modern Lovers.
Oui, moi j'avais commencé effectivement par découvrir le fameux The Modern Lovers, le premier album. Et après, le Rock'n'Roll with the Modern Lovers, les titres ont pu être changés. Quoi, parce que pour du rock'n'roll, c'est plutôt mou du bide. Ah, c'est pas mal, mais c'est complètement. Celui qui découvre les Modern Lovers avec donc ce fameux The Modern Lovers, le premier album éponyme, sont surpris par ce qui se fait après. En 72, ils ont déjà enregistré des démos avec Kim Fowley. Ça, c'est le premier ingénieur du son producteur, mais aucun label n'a voulu sortir ses bandes. Et les Modern Lovers retournent en studio l'année suivante à Los Angeles avec John Cale. Ce qui leur permet de signer avec Warner Bros. À titre indicatif, le jeune Jonathan Richman, en fait, est allé voir quasiment tous les concerts. Il avait 18 ans, il allait voir tous les concerts du Velvet Underground. C'était un gros fan. Il était devenu la mascotte du groupe même, quand il avait 18 ans à peine. Hein.
Oui, d'ailleurs, je crois que c'était Lou Reed qui lui mettait le doigt pour en faire une petite marionnette. Mais bon. Non, c'est pas vrai.
Il fallait voir les gestuels pour les gens qui sont pas là.
On devrait filmer comme
je sais. Jonathan Richman, c'est un petit peu le tataillé du Velvet Underground. Quoi.
Heureusement qu'ils sont tous morts.
Et qu'ils écoutent pas Rollmops.
Bah, je pense pas.
Sur Radio Campus 88.3.
Peut-être en podcast, je sais pas. m'a fait perdre le fil. Oui, non, donc oui, John Cale donc décide de produire l'album. Mais en fait, le temps passe depuis les débuts du groupe quand débute l'enregistrement en fait de l'album en septembre 73. Et Jonathan Richman en fait souhaite changer de style. Les relations avec leur producteur et avec la maison de disques sont venimes et les Modern Lovers finissent par se séparer en février 74 sans avoir rien publié. Jonathan Richman, qui est en fait dépositaire du nom du groupe, hein, c'est lui qui a déposé le groupe. En fait, il signe avec un label qui s'appelle Berserkly Records et il réenregistre quelques-unes de leurs chansons avec de nouveaux musiciens. Et le disque intitulé The Modern Lovers est produit cette fois-ci donc par John Cale, orné d'un simple cœur stylisé sur fond bleu. Hein, vous voyez cette.
Ouais, tout à fait. Je l'ai en t-shirt.
C'est vrai ?
Ouais,
la classe. Il sortira en fait en 76, mais le ton direct, rageur et sensible des morceaux marquera la postérité. Alors, je vous propose qu'on écoute donc deux morceaux des débuts hein, de la première phase hein, donc de la 70-74 des Modern Lovers. Et je vous en parle un petit peu après.
Allez,
allons-y. voilà, comment faire à la fois quelque chose de frais et de poisseux. Je sais pas comment exprimer les choses.
Exactement, il y a le côté Stooge à mort.
Ah oui, puis,
sur le premier morceau, moi je m'étais pas rendu compte sur vraiment la toute fin de I Wanna Sleep. Il y a un passage, c'est quasiment la même chose que le plan de 1970 des Stooges.
Carrément.
Et puis le Velvet surtout.
Le Velvet,
bien sûr, omniprésent.
Sur les intonations.
Donc là,
côté tataillé.
On a écouté donc d'abord I Wanna Sleep in Your Arms, donc c'était l'album The Modern Lovers, donc produit par John Cale, hein, en 76. Et on vient d'écouter juste en She Cracked, un des morceaux phares de cet album, sur une version donc démo enregistrée donc par je l'ai perdu. Par Kim Follet en 72 sur une démo. Donc effectivement très très Velvet Stooge. Le premier est beaucoup mieux produit, effectivement, c'est un peu plus clean. Ça reste quand même assez brut, mais c'est relativement clean. Alors que She Cracked, on voit bien que c'est un peu raide. Hein. En fait, donc l'album sort en 76. Et il ne fut découvert que sur le tard, en fait. Hein. Et en fait, la tornade punk commençait à déferler et à souffler partout. Et en fait, Jonathan Richman, lui, était passé vraiment à autre chose. Hein. Et loin de cette espèce de rock poisseux de ses débuts, il en était désormais à chanter. Alors, quand tu regardes les paroles, il parle de martiens, il parle d'abominable homme des neiges ou autre fascination ou terreur d'enfance. Hein. Donc, il est vraiment, vraiment passé à autre chose. Et donc, effectivement, Jonathan Richman enregistrera deux autres albums avec son nouveau groupe baptisé Jonathan Richman and the Modern Lovers. Donc, il y a Rock and Roll with the Modern Lovers et Back in Your Life. Ce sont des albums relativement dispensables. Moi, je connais des fans, hein, mais bon, voilà, c'est pas. Et donc, il entamera ensuite une carrière solo. Alors, sa discographie, donc la discographie de Modern Lovers, elle est un peu particulière. Donc, il y a le fameux The Modern Lovers 76 chez Bezerclay, donc avec des bonus de Kim Follet et les premiers morceaux réenregistrés. Et en 81, on trouve The Original Modern Lovers, hein,
ouais,
avec les sessions complètes de Kim Follet chez Bomb Records. C'est peut-être moi, c'est l'album que je connais.
Oui.
C'est la version. Et là, elle est vraiment très complète. Et ensuite, il y aura deux lives. Hein, Live at the Long Branch Saloon, chez Fan Club New Rose, évidemment, en 82. Et en 94, Precise Modern Lovers Order, live à Berkeley et Boston, entre 72 et 73. Je ne connais pas ce live, j'ai vu ça. Tu connais, toi?
Pas du tout.
Non,
non.
72 et 73, ça ne doit pas être mal. Hein.
Non, moi, j'avais 2 ans et demi, donc.
Oui, bah. je connais les Beatles, j'étais pas né en 64. Hein.
Ah bon?
Alors, à noter, pour terminer sur les Modern Lovers, la sortie en 2004 d'un coffret qui s'appelle Roadrunner, The Bezerclay Collection, qui comprend la totalité des enregistrements chez Bezerclay Records, donc au départ, soit pas moins de 85 morceaux sur le coffret.
Toi, voilà. T'es en train de faire ta liste au Père Noël. Ah.
Et je connais quelqu'un qui joue de la guitare dans les Queens, qui, une année, j'avais dit, pour mon anniversaire, offrez-moi un livre ou un disque qui est quelque chose qui vous a vraiment marqué et qui est au-dessus de tout le reste. Et cette personne, donc mon frère, m'avait offert, effectivement, le fameux Modern Lovers.
Voilà. Exactement.
Donc je pense que je viens d'avoir connaissance de ce coffret. J'espère qu'il n'écoute pas la radio. Sinon, c'est spoil. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire écouter les Modern Lovers.
Nous, ça nous a fait plaisir de les entendre.
Bon, très bien. Eh bien, tu vois, c'est les Modern Lovers, moi, leur influence parfois elle est surprenante. Moi, la première fois que j'ai entendu une reprise de Roadrunner, c'était les Sex Pistols.
Eh bien, pendant
leur rappel,
bien sûr.
Quand je les ai vus en Belgique, il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années de ça, alors, ils finissaient par une reprise de Hawkwind, Silver Machine, par mêlée avec Roadrunner.
Oui, parce que c'est la version qu'on peut retrouver sur la grande escroquerie du rock'n'roll.
Voilà, et c'était vraiment très bien.
Bah oui.
Rotten incarnait vraiment le truc, c'était plutôt très chouette. Allez, je vous propose d'aller au nord d'Angleterre. C'est un peu le Newcastle upon Tyne, c'est un peu le Pas-de-Calais de l'Angleterre.
Mais c'est carrément le Pas-de-Calais de l'Angleterre.
Pour parler d'un groupe.
Ils disent the North of Calais.
Donc pour parler d'un groupe en activité depuis une trentaine d'années. Donc l'histoire de ce groupe commence lorsque le chanteur guitariste Ginger parce qu'il est roux, hein, voilà, en anglais Ginger c'est la façon dont on désigne les roux, est viré du groupe The Choir Boys en 89. Donc les Choir Boys sont pas encore connus, donc on s'en souvient pas. Il s'associe alors avec l'ancien batteur des Dogs d'Amour, Bam Ross, avec le guitariste CG et le bassiste Danny McCormack, et ils fondent les Wild Hearts, un groupe donc mélangeant des sonorités heavy avec des compositions l'ornant plutôt vers l'urgence punk, le glam ou la power pop. Leur heure de gloire sera modeste et de courte durée. Elle correspond au contrat qu'ils auront avec la maison de disques East West de 94 à 96. Donc rejoint par le batteur Rich Battersby, ils enregistrent 3 albums sauvages, Earth vs The Wild Earth, PHUQ et Fishing for the Keys. Plusieurs singles bénéficient de passages radio en Angleterre, dont le titre qu'on va écouter dans quelques instants. En 96, les Wild Earth ont l'occasion de briller sur scène en ouvrant toute la tournée européenne d'ACDC, puis en participant à la formation des Pistols, justement, à Finsbury Park, Sur la même affiche, il y avait Iggy Pop, les Buzzcocks et les Stiff Little Fingers, donc un peu la pression pour les petits gars. Et réputés du coup pour leur concert incendiaire, la bande de Ginger, ils gagnent beaucoup de notoriété, hein, parce que là, ils jouent devant des publics énormes, et les mecs sont super bons sur scène, moi je les ai vus à cette époque-là. Mais sombrent en même temps dans les problèmes de drogue et les conflits internes, donc ils se font lourder de leur maison de disques et démarrent une longue traversée du désert qui continue encore aujourd'hui avec des séparations, des changements de line-up et des albums très inégaux. Donc le seul membre constant, Ginger, a multiplié les projets. Il a notamment joué avec Dragon dans Super Shit 666 qu'on a écouté grâce à toi Laurent il n'y a pas très longtemps. Et dans le groupe de Michael Monroe, l'ex-chanteur de Hanoi Rocks. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter un titre de 94. Attention, c'est plus heavy que ce qu'on a écouté jusque-là. Ça s'appelle Caffeine Bomb, on écoute les Wild Hearts.
And it's been too long. I need a bomb, I need a candy bomb. What a buzz.
Et voilà.
Waouh, waouh, waouh. C'est psychédélique ça. Hein.
C'est le groupe rennais Guadalterras.
Oui, oui, ah, ils sont pas rennais, ils sont de Guingamp, mon petit gars.
Ah, Guingampé. Guadalterras. Avec le titre Mercedes. Death. Sorti en 2019 sur Crème Brûlée Records. Le groupe était venu à l'époque à Orléans, chez nos voisins du Bouillon, juste à côté.
Chez Crème Brûlée Records. Et Bis Records, c'est une coproduction.
L'album suivant.
Ah, t'as raison.
Ah non, messieurs, on va y venir. Et ils reviendront donc par chez nous très bientôt, puisqu'ils seront mercredi prochain sur la scène de l'Astrolab, en première partie du concert des Oasis. Donc le dernier album du quatuor breton s'appelle Noche Triste, et il est effectivement sorti en 2022, coproduit par Crème Brûlée Records, Bis Records et l'Assaut, la Nef des Fous. Ils ont d'ailleurs joué à Binic l'an passé, si je ne me trompe pas.
Ou il y a deux ans, je ne sais plus.
Voilà. Enfin, si vous voulez en savoir plus donc, sur ce groupe, nous vous invitons à les découvrir sur scène mercredi 5 juin à 21h à l'Astrolab. Et bien évidemment, ne ratez pas la bande de John Dwyer. Donc je sais que Professeur Lolo sera là. Notre ami Blu est en tournée avec Motley Crue, donc il ne pourra pas être avec nous.
Exactement.
Voilà. Bah, t'es pas mal celle-là, tu vois, je l'avais bossé.
T'as sorti ton démarre dans un clou, non ?
Exactement. et mon slip en toile émerie.
Alors on a dit qu'on disait pas trop de bêtises, donc juste signaler que samedi soir, donc ce samedi à l'Astrolab, concert de Girls in Synthesis et Lovatarax organisé par 45 Tours de Poitrine, c'est à 20h30 l'ouverture des portes.
Tout à fait, donc c'est un groupe de Londres qui vient quand même, dans le plan Cold Wave, Joy Division, Gilly Band, tout ça. Quoi,
Punk, tout ça. Voilà. Le lendemain, on a Bodega qui nous viennent de New York, de Brooklyn, qui sont déjà passés par chez nous. Ils seront là sur scène à partir de 18h30.
C'est ça, et il y a Ciel en première partie, un groupe du même style de Brighton.
Voilà.
Donc le 5 juin, tu l'as dit, les Oasis, Guadalterras, donc ça fait quand même 3 concerts en 4 jours.
Guadalterras.
Le mardi 11 juin, les amis, au Drop Keep Guard, bah justement, tu en as parlé,
mais
il y a donc les Poison Boys de Chicago, un groupe de punk rock and roll vraiment dans la lignée des New York Dolls et consorts, accompagné des Strong Commons et également de 38 Winchester Center Fire, le nouveau groupe de Simon des Sharpers.
Ah tiens.
Voilà, tout à fait. Et puis donc le vendredi 14 juin, les Weird Domain au Jacquin, on en parlera dans le cadre de la Remob 63 qui aura lieu le 12 juin, comme ça l'annonce est faite.
Voilà,
super. Eh bien mon cher Lolo, je t'invite à reprendre la main pour nous parler de drogue, parce que ça fait un petit bout de temps que tu l'avais pas fait.
Mais bien sûr. C'est important de parler de drogue. Mais on fait de la prévention, bien sûr. Hein.
Bien sûr, prenez-en.
Vous êtes sur Radio Campus 88.3.
Prenez-en, mais c'est mal.
Voilà. Non, c'est ça.
Comme ça qu'on prévient.
Oui, bien sûr. On va parler d'un morceau qui s'appelle LSD.
Yeah.
Yes. C'est un morceau des Pretty Things. On avait passé déjà un morceau des Pretty Things. Hein. Tu te rappelles, mon cher Eric ?
Pendant l'émission numéro 39.
En fait, il a tout compilé, Eric. Il est capable de nous sortir.
J'étais même pas encore dans l'émission.
Ah oui, c'est ça. Donc, Pretty Things, un groupe de la fameuse mouvance des British Blues Boom. Hein. Groupe créé en 63 par Dick Taylor et qui avait quitté les Rolling Stones. Il était bassiste. C'est le premier bassiste des Rolling Stones, Dick Taylor, en 62. Hein, et donc, par Phil May, hein, le chanteur. Les Pretty Things tirent leur nom du chanson de Bo Diddley. Ah, c'est des gros fans. Le groupe joue dans les clubs, autrefois fréquentés par les Stones, peu à peu délaissent les petites salles pour les grands concerts. Hein. Donc les Pretty Things sont alors un petit peu considérés comme un simple clone des Stones, hein, peut-être en plus rebelle, avec des cheveux encore plus longs. Et un rhythm and blues encore plus basique et énergique. C'est vrai qu'on disait souvent que les Rolling Stones, c'est les mauvais garçons. Pretty Things, c'est des très mauvais garçons à côté. Hein.
Alors qu'on les compare avec les Rolling Stones, alors que globalement c'est plutôt mieux à la même époque.
Oui, à l'époque où les Stones faisaient que des reprises un peu fluettes, oui, je trouve. Oui. Après, c'était le personnage de Jagger. Quoi.
Oui, quand les Pretty Things commencent à jouer, les Stones ont arrêté les reprises. Hein. Il y a un petit décalage temporel. Quand même.
Premier album des Pretty Things. Oui. Donc en fait, ils sont en 64, ils sont repérés par Fontana Records. Et le succès commercial tarde pas à venir. Hein. Le premier single du groupe s'appelle Rosaline. Se classe à la 41e place des Billboard britanniques. Succès confirmé par Don't Bring Me Down, qui atteint la 10e place, mais dont les paroles osées entraînent la censure aux États-Unis. Oui. Leur premier album s'appelle Les Pretty Things, ils sont en 65. C'est un succès. Donc, 6e place au UK Album Chart. Hein. D'autres titres suivront, comme Midnight to Six Men, par exemple. Mais les Pretty Things commencent à composer eux-mêmes leurs titres, notamment LSD, Buzz the Jerk, You Don't Believe Me. Des titres qui restent rock'n'roll, mais fortement encore là, inspirés de rhythm and blues. Hein. Mais bah, cette fois, hormis chez les connaisseurs, bah, les ventes décollent pas. Alors sur le second album, ça s'appelle Get the Picture, passe largement inaperçu. Et puis en outre, bah, leur manager qui était Brian Morrison, qu'est-ce qu'il décide ? Il décide de ne pas faire de tournée aux États-Unis. C'est une bonne idée, ça. Et bah, évidemment, ils n'y retourneront jamais, sauf dans les années 70, hein, bien plus tard. Ils avaient une image de musicien subversif. Hein. Le titre LSD, c'est le L s'écrit comme le L de livre sterling, hein, vous voyez, le L barré. Hein. Il joue en fait sur les mots en compromettant la livre sterling, et la BBC ne retire des ondes le morceau. Ils sont un peu maudits. Bon, ils sont vulgaires, hein, on compte pas les fuck dans leur interview d'époque, et peu fréquentables. Hein, les journaux d'époque se font l'écho de leurs frasques alcoolisées qui leur voudront une interdiction à vie de revenir sur le territoire néo-zélandais, par exemple. Bon, tout ça, ça leur colle à la peau, et le problème, c'est que bah, voilà, ça, ils n'auront plus de gros succès. Et 67, c'est le Flower Power, les Pretty Things s'orientent vers du psychédélisme. Hein. Et bah, ils s'enferment dans les studios Abbey Road, hein, chaque soir, jouant sur les instruments des Beatles. Et ils enregistrent au même moment que Sgt Pepper, dans le Yards Club Band. Ils enregistrent le premier véritable opéra rock qui s'appelle SF Sorrow.
Essentiel.
Voilà, qui est superbe. Basé sur une histoire écrite par Phil May. Et encore une fois, bah, SF Sorrow subit les aléas de la post-production et sort finalement après le Tommy des Who. Raté. À la loose, c'est ça, c'est pas la loose. Et Pete Townshend, bah, il aura beau avouer plus tard s'être inspiré de SF Sorrow, bah, le public croit que les Pretty Things ont copié les Who. Voilà. S'en suivront de nombreux albums plus obscurs les uns que les autres. Moi, j'en ai deux. C'est pas terrible, terrible. Hein. Dont un où ils reprennent le fameux LSD, mais un peu Americana, un peu. C'est un peu mouduc, hein, comme on dit. Hein. Donc, moi, je préfère vous faire écouter effectivement le fameux LSD sorti. C'est la face B du single Come and See Me, sorti en 66. On écoute ça tout de suite. Voilà les deux versions d'une même chanson à vos oreilles également aimables, du Last But Not Least. Donc on a écouté l'original des Pretty Things LSD en 1966. Et là on vient d'écouter un groupe qui s'appelle Acid Tongue, superbe groupe fondé américain à Seattle en 2015 par un duo en fait. L'auteur-compositeur et membre principal c'est Guy Keitner, chant guitare, et artiste visuel Ian Cunningham qui est chant et batterie. À ce jour, le groupe a sorti 3 albums studio et 4 EP sur le label indépendant de Seattle qui s'appelle Freak Out Records, qui est fondé donc par Guy Keltner du groupe. Leur musique aussi entre on l'a vu, le garage rock, le rock psychédélique. Et là, ils nous ont fait une magnifique version de LSD des Pretty Things.
Carrément.
Ouais. Qui est sorti il y a très très peu de temps, puisque c'est le dernier album qui s'appelle Acid on the Dance Floor, porte bien son nom, qui est sorti donc en avril de cette année.
Super, bravo.
Ouais, à suivre.
Très bien.
On enchaîne sur quelque chose de tout à fait différent. Je vais vous parler d'un artiste qui aurait eu 99 ans bientôt, mais en fait, il est mort à 50 ans, parce qu'on aime bien les gens qui ont un peu la loose. Donc épileptique, alcoolique. Je vais vous parler d'un artiste, ça faisait très longtemps que je voulais vous en passer. En l'occurrence, on va parler de Jimmy Reed.
Ah bah oui.
Alors Jimmy Reed, né dans les années 20 au bord du Mississippi, une carrière à la fois pionnière et influente. En effet, ses chansons étaient quand même très reprises. Je reprenais un peu plein de chansons qu'il a fait au moment de choisir. Et je me disais, ça a été repris par Elvis, par Etta James, par les Zem, par les Pretty Things, Nancy Sinatra, Johnny Winter, Buddy Guy, les Beatles avec Tony Sheridan, même les Choir Boys dont j'ai parlé tout à l'heure incidemment, Aerosmith, I Ain't Got You, les Stones, I Kitina, enfin voilà. Donc le morceau que j'ai prévu de vous faire écouter donc, date de 53, il est enregistré à Chicago. Le morceau est sorti bien plus tard, en 58, sur le premier LP I'm Jimmy Reed, sur le label VJ. Et dans la foulée, on écoutera deux figures légendaires proposer une reprise de Jimmy Reed, mais immédiatement on écoute You Don't Have To Go par Jimmy Reed.
Yeah.
Thank you.
Alors, on vient d'écouter l'emprise du morceau Bright Lights Big City, donc composé en 61 par Jimmy Reed. Mais donc, vous avez reconnu qui c'était ?
Oui, tout à fait.
Jerry Lee Lewis au piano.
Ah oui.
Neil Young à la guitare.
Et au chant aussi.
Et au chant, les deux.
Ah oui, non, j'y étais
pas.
Et
c'est assez frappant, les deux voix, en fait, assez naturellement, on n'est pas forcément toujours si sûr que ça.
Oui, c'est pas
grand,
oui.
Voilà. Oui, oui. Donc, version de 2014, donc, est apparue sur le dernier album studio donc, du Killer, qui est plus tout à fait, à 79 ans, était plus tout à fait le pianiste qu'il avait été avant. Hein, c'est, le piano c'est un peu ralenti. Comme souvent dans les albums où il invite des invités, il les bride un peu hein, pour pas qu'il lui fasse trop d'ombre. Donc c'est vrai qu'on a un Neil Young qui est quand même à la guitare tranquillou. Derrière à la batterie, on a Jim Keltner qui a joué à peu près avec tout le monde dans le monde du rock. Et Ivan Neville de la dynastie Neville de la Nouvelle-Orléans. Donc sur un précédent album de Jerry Lee Lewis en 2006, Neil Young avait déjà été invité à reprendre un morceau de Jimmy Reed, qui était le morceau qu'on a écouté juste avant, You Don't Have To Go, dont il existe aussi une version des deux, qui en fait est mieux que celle-ci, mais elle était trop longue. Parfois ça tient un peu de choses.
Qui faisait vraiment penser à Sweet Home Chicago. Voilà.
Oui, exactement.
Le même thème, les phrases sont parfois les mêmes.
Et Neil Young lui-même avait déjà enregistré Crazy Horse, Baby What You Want Me To Do, qui est un des grands classiques donc, de Jimmy Reed. Donc voilà, c'était un petit hommage à Jimmy Reed. Et je laisse la parole tout de suite, on part vers Nice.
Yes, exactement les amis, moi je vais vous parler d'une bande de 4 personnes qui depuis 40 ans, ils sont formés en 85, sont des potes du lycée, ils ont trouvé leur nom au fait dans un titre de l'album The Idiot d'Iggy Pop, ce sont les
Dumb Boys.
Exactement. 9 albums, 2 BO, 2 films porno dans lesquels ils jouent d'ailleurs comme acteurs, pas actifs mais acteurs passifs. Voilà, et je vais prendre les propos de Patrick Folou. 40 piges de bon, il est au service de Sa Majesté le Rock'n'Roll. Les Dum Dum Boys n'ont jamais commis de faux pas. Ils restent fidèles à leur direction artistique. Les Dum Dum Boys sont un croisement entre le Velvet, les Stooges, Suicide, la littérature déviante, le cinéma de genre, le tout enveloppé dans un drapé par Kip Foley avec des harmonies fleuries façon Lee Hazelwood. Et je crois que c'est une très bonne définition. Alors là, on va écouter deux titres.
Patrick Fouillou, il faudra l'inviter pour la 63. C'est le pit-dub, là. Dans deux semaines. Le 14, c'est ça, tu m'as dit ?
Le 12 juin, la numéro 63.
Numéro 63.
Voilà. Et donc, là, on va écouter deux morceaux. Donc, un premier qui est tiré d'un album de 2019 qui s'appelle Dum Dum Mind Plays All Your Favorite Songs. C'est que des reprises. Et là, c'est donc une reprise de James Brown, There Was a Time, qui sera enchaînée avec Do the Nothing, tiré de leur dernier EP, paru en 2023. On se fait des bises, on se dit à bientôt, à dans 15 jours.
C'est le temps. Salut.
And